Marceau le midi. La référence pour votre horoscope puis vos avis de décès. Voici Marceau, Pascal CV et Tom Gauthier.
Midi 31, 418-971-1021, vous êtes nos yeux, nos oreilles. S'il se passe quelque chose sur la route, merci de nous en faire part. Dure soirée hier pour Alexis Lafrenière qui l'a mis directement dans son propre filet. Pour tous ceux à qui c'est déjà arrivé, que ce soit dans des ligues organisées ou encore la Ligue du Vieux Poil, bon Dieu que tu te sens cheap quand tu marques dans ton propre but. C'est jamais par exprès. C'est tout le temps des maudites déviations. Et de voir Lafrenière, après son but, aller au banc des joueurs puis se dire « qu'est-ce que je viens de faire là? » Eh, que ça doit être plate.
Puis en plus, c'est que les Rangers...
T'es en série, là.
Ouais, en plus, puis les Rangers, c'était à un but. Les Panthers ont marqué en fin de première période. Ensuite, on se rend en fin de troisième. Puis c'est là que Lafrenière fait dévier la rondelle dans son profilet. Ça met la marque à 2-0. Puis les Panthers qui ont gagné le premier match de cette série. Finale de la conférence de l'Est, 3-0. Belle performance de Sergei Bobrovski. 23 arrêts sur 23 tirs. Ce soir, c'est le début de la finale de la conférence de l'Ouest entre Edmonton et Dallas à 20h30. Qui gagne cette série-là, Yann? Edmonton-Dallas?
Ben moi, je vois avec Edmonton.
Oui? En combien? Combien de matchs?
7.
Edmonton en 7. Moi, j'ai dit Dallas en 6.
C'est pas une série facile. Toi, tu dis Dallas en 6, Pascal?
Go Canada.
Go Canada.
Go Canada. Sinon, les Capitales de Québec défaites hier face aux Miners de Sussex County 9-6. La série de 3 matchs entre les deux équipes qui se termine demain 19h05. Puis ne manquez pas notre match boulevard demain soir au Stade Canac entre, bien sûr, les Capitales et les Valley Cats de Tri-City. On va être sur place. Puis demain midi, on va recevoir le président des Capitales de Québec, M. Michel Laplante. Fait que ça va être bien, bien cool de jaser avec lui. Donc, restez à l'écoute de tout ça pour demain.
Très cool. Prochain sujet, on parle de l'UPA qui a décidé de faire, de passer un sondage parmi ses membres, puis les résultats sont assez inquiétants. On parle d'une ferme sur 5 qui est incapable de payer ses dettes, donc 20% des fermes au Québec actuellement est incapable de payer ses dettes. Puis les raisons, ce seraient les aléas climatiques, nous dit-on, les hausses de taux d'intérêt et la baisse des prix de marché qui font souffrir les agriculteurs. On a décidé de parler au meilleur agriculteur qu'on connaît, en fait moi c'est le seul, c'est David Simard, c'est un excellent joueur de hockey de la ferme Simard. Salut David!
Un excellent joueur de hockey.
Salut David.
Je suis meilleur en agriculture qu'en hockey, je vous confirme.
Ouais. Est-ce que c'est une surprise pour toi de voir ces résultats du sondage de l'Union des producteurs agréés ce matin?
Non, pas du tout. Là. C'est pas une surprise. C'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on vit à chaque jour également.
Puis les raisons qui sont évoquées, est-ce que ça aurait été les mêmes que toi t'aurais mentionné, c'est-à-dire les changements climatiques, les taux d'intérêt qui sont assez élevés, merci, puis la baisse des prix des marchés?
Oui, c'est principalement ces raisons-là. Je dirais que moi, dans mon cas, étant dans le producteur maraîcher, je suis très, très, très impacté là, par les prix des marchés, par l'environnement d'affaires également. Puis par aussi un peu les finances personnelles des gens, si on veut, là, c'est où est-ce que les gens mettent leur argent pour les frigos, comment les gens consomment, on est très, très impacté.
Je me pose une question, puis je m'inquiète beaucoup, David, parce que je te l'ai déjà dit, moi, je trouve ça extraordinaire que tu aies repris les rênes de l'entreprise familiale, que tu aies voulu continuer en agriculture et autres, mais je sais que c'est complexe pour beaucoup de jeunes. Premièrement, il faut que tu aies envie. Deuxièmement, avec ce qu'on apprend encore ce matin, as-tu l'impression qu'on va en perdre beaucoup des fermes au Québec? Et est-ce que la relève va être présente, va vouloir endosser, malgré toute la charge de travail, ces problèmes-là en supplémentaire?
C'est déjà commencé. En fait, c'est rien de nouveau. On en a déjà perdu énormément l'an passé. Il y a beaucoup de producteurs qui ont quitté. Moi, dans mon seul, j'en connais 4, là, en fait, des entreprises là, qui n'ont pas recommencé en 2024. Ça fait déjà à peu près 2 ans qu'on a levé le flag pour dire on s'en va dans le mur, il faut qu'il se passe quelque chose. Au gouvernement, évidemment, il ne se passe à rien. C'est de plus en plus difficile de s'établir en agriculture, notamment à cause du prix des terres. Mais là, maintenant, en plus d'un prix élevé, bien, on a le taux d'intérêt qui vient avec qui est élevé. Donc, ça rend la tâche là, quasi impossible là, de démarrer une entreprise agricole de zéro là, en 2024. Peu importe la production, c'est quasi impossible.
David, on fait toute notre épicerie, puis on constate que le coût des légumes, des fruits, des autres produits aussi, ça a augmenté. Explique-nous pourquoi un produit qui vient du Mexique, qui arrive chez nous, des fois, peut être moins cher qu'un produit qui a été qui a poussé directement sur nos terres.
Y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est des normes un peu sociétales qu'on s'est données au Québec qui font en sorte que on produit quelque chose qui est éthiquement mieux qu'ailleurs, qui est plus selon nos valeurs. Si je vous disais que chez nous, on respecte aucunement l'environnement, on exploite des nouveaux arrivants ou des réfugiés en les menaçant de les renvoyer dans leur pays, qu'on utilise un paquet de produits prohibés et puis qu'on arrose avec les eaux d'égout, ben vous me direz, ça marche pas. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Je consomme pas ce produit-là. Je ne mets pas mon argent là-dedans. C'est contre mes valeurs.
Ouais.
Ben c'est un peu ça qu'on fait quand on consomme des produits du Mexique sans nécessairement le savoir. C'est que on n'est pas sur le même pied d'égalité sur un paquet de normes environnementales. Les normes du travail, les matières, la matière de tout le bien-être animal aussi qui est pas le même. Heureusement, dans le lait et dans le poulet, on a notre système qui est bien fermé. On a juste des produits ici qui peuvent rentrer. Donc, ça fait en sorte que nos coûts de production sont beaucoup plus élevés que dans d'autres pays. Il y a aussi, bon, la saison qui est plus courte, évidemment. On produit sur à peu près 6 mois au lieu de 12. Mais tous ces facteurs-là font en sorte que nous, ici, ça nous coûte énormément plus cher qu'ailleurs de produire. Puis ça fait que, évidemment, de temps en temps, nos produits peuvent un tantinet plus cher, mais c'est toujours le cas non plus. Là.
Mais tu l'as bien expliqué. C'est juste que, tu sais, pour, je sais pas moi, quelqu'un qui habite seul avec ses 2-3 enfants, il va aller à l'épicerie puis il va se dire, ben voyons donc, tu sais, moi, je préfère encourager ce qui vient de chez nous. C'est un bon réflexe en passant, encourager local. Mais des fois, quand c'est 2-3 piastres de différence, tu dis, OK, là, c'est un peu là, va falloir que j'y pense. Mais de la façon dont tu l'expliques, c'est très clair. Y a-tu quelque chose que le gouvernement pourrait faire pour faciliter la tâche qui réduirait peut-être les coûts? Y a-tu trop de normes qui servent un peu à rien puis qui compliquent la vie des agriculteurs?
Ou des subventions, ou encore l'obligation que les grandes chaînes fassent leur effort aussi sur les prix au lieu de négliger les normes?
Toutes ces réponses-là seraient des sources d'aide. On a mis beaucoup de pression sur le gouvernement pour réduire la lourdeur administrative. C'est nous, ce qu'on est bon à faire, c'est de l'agriculture, c'est pas de la fonction publique, c'est de la paperasse, ouais. Du bureau. Dans les 5 à 10 dernières années, moi, ça fait 12 ans que je fais ça, puis quand j'ai commencé, la charge de paperasse qu'il y avait à faire était peut-être la moitié moins de ce que c'est maintenant. C'est devenu un fléau pour nous autres. Et ça, c'est une partie de la réponse. Ça coûte rien, ça, de réduire la charge administrative. Là. Ça coûte rien à l'État. Là. À l'État, ça va y faire sauver de l'argent. Ensuite de ça, il y a évidemment le cas des grandes chaînes. Ils ont été convoqués en commission parlementaire par le fédéral l'an passé pour expliquer pourquoi les paniers d'épicerie avaient autant monté en 2 ans. Le panier d'épicerie a monté d'à peu près 25 % en 2 ans. Le revenu net des agriculteurs a baissé de 90 %. Puis les profits nets des grandes chaînes ont monté d'environ 15 à 20 sur cette même période-là. Donc, ils ont été convoqués pour expliquer pourquoi eux autres faisaient du profit pendant que tout le monde crève, si on veut, là, autant producteurs que consommateurs. Ça n'a pas donné grand-chose. Évidemment, le gouvernement pourrait légiférer éventuellement pour tout ça. Il y a 5 gros joueurs dans la province, là, dans les grandes chaînes, là, qui divisent la poire de 9 millions de personnes à 5. Là. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de concurrence de ce côté-là. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on va entendre souvent dans les médias parce que, évidemment, ils ont le gros bout du bâton. Et puis, il y a beaucoup de producteurs qui ne peuvent tout simplement pas parler contre ça parce que ça serait trop dangereux pour leur entreprise. Mais ils nous tiennent par les gosses en bon français. Là. Souvent, eux, ils ont un prix cible pour un produit. Je vous donne un exemple. Le panier de pêche, dans leur tête, ils disent qu'il faut que ça se vende 2,99 ce qui n'en démontre pas. Dans les 10 dernières années, le panier de pêche de l'épicerie a passé de 1,5 litres à 1 litre à 750 ml. Et ça, ben, souvent, c'est pas nécessairement les producteurs qui sont derrière ça. Là. C'est vraiment les grandes chaînes qui ont un prix en tête et on fait tout ce qu'on peut pour vendre ce prix-là, sinon les gens n'achètent pas. Fait, il y en a une très large dans l'industrie. Évidemment, c'est pas dans toutes les branches de l'agriculture, c'est beaucoup nous dans le maraîcher, ce phénomène-là. Mais ça, c'est une partie de la réponse là, pour encadrer un peu ce qui se passe. Puis l'autre bout, c'est vraiment d'avoir quelque chose pour les taux d'intérêt. On a déjà un mécanisme en place au Québec qui s'appelle la financière agricole du Québec, qui garantit un peu les frais qui viennent nous endosser, si on veut. Ils ont un programme de plafonnement des taux d'intérêt, mais il est tellement haut que c'est plus réaliste de penser que ça aide les producteurs en 2024. Souvent, le plafond de taux d'intérêt est autour de 6, 7, 8 % dépendamment de comment on se qualifie. Et puis, ça fait des années que ça n'a pas servi. Et puis, pourtant, dans bien des cas, ça ne sert pas encore si les gens n'atteignent pas le plafond. Mais il faudrait peut-être baisser ce plafond-là, mettre un plafond peut-être à 4 ou 5 % pour donner une chance aux agriculteurs.
Ouais.
La hausse des taux d'intérêt fait en sorte qu'on gruge nos liquidités et que notre revenu net descend. On est plus capable d'investir, même dans 5-5 ans, il y a des gens qui sont même plus capables de sortir un salaire de leur ferme. Donc ces trois gros points-là pourraient être facilement adressés, puis on entend toujours ce qui se passe.
David Simon de la ferme Simon, est-ce que tu es libre de faire pousser ce que tu veux dans ton champ, puis avec les grains que tu veux, ou c'est tout ça, c'est surveillé, puis si tu vas à l'encontre de ce que le gouvernement veut, ça se peut que tu te fasses taper ses doigts?
On peut faire pousser ce qu'on veut, mais évidemment, c'est surveillé. Il y a des réglementations, notamment au niveau de la pomme de terre, c'est plus réglementé un petit peu parce qu'il y a des risques de maladies. Ça, c'est correct, c'est plus au niveau de la sécurité. L'idée, c'est que tu fais pousser ce que tu es bon à faire pousser, ce que ta terre aussi est bonne à faire pousser. On n'a pas la chance d'avoir toutes les sortes de terrains partout. On n'a pas la chance d'avoir tous les climats, nécessairement. Tu essaies de te spécialiser dans quelque chose qui pousse bien chez vous, qui pousse bien dans ta région. Il
n'y
a pas nécessairement de restrictions à ce niveau-là gouvernemental. Okay. Mais il y en a déjà bien assez que... On n'a pas nécessairement besoin qu'il y en ait encore plus. Là.
Puis la dernière question de mon côté, David, Pascal va en avoir une autre pour toi par la suite. La couverture de neige en décembre, on nous dit qu'elle a été insuffisante là, pour protéger des cultures. On a eu pas mal de pluie en juin. Ça aurait provoqué des maladies. Est-ce que de votre côté, dans ton secteur, tu as été impacté par ça?
Oui, absolument. C'est sûr que les pluies de l'an passé dans la production dans les fraises, ça va nous affecter encore en 2024. Moi, j'ai le tiers de mes fraises pour 2024 qui ne pousseront pas parce qu'elles ont été détruites sans passer par des maladies. Donc, j'ai un champ au complet qui va falloir que je rase. Là, il n'y a absolument rien qui est sorti de là. Et puis, dans d'autres cultures, notamment le grain, puis les traités de foin, la couverture de neige est très, très, très importante l'hiver. Ça vient faire une couche d'isolation. Ça vient éviter qu'on ait du gel. Et vous pouvez constater la même chose un peu sur les terrains de golf. L'an passé, il y avait beaucoup de terrains de golf qui ont eu un début de saison très difficile parce que la pelouse avait gelé à cause du manque de neige. On a un peu la même chose qui se passe dans nos champs. Donc, c'est quelque chose qu'on constate absolument puis ça a grandeur du Québec.
Hey, moi, je suis fascinée par la conversation. À chaque fois là, que je parle à des agriculteurs, puis dans le temps, quand je couvrais sur le terrain, puis tout, il y avait tout le temps les rassemblements et autres. Une affaire que je trouve très ironique, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, David, parce que j'arrive pas à comprendre comment est-ce que c'est pas une priorité gouvernementale. Vous êtes le garde-manger du pays, disons-le comme ça. On va prendre le Canada au complet. Souvent, c'est quand même sous juridiction fédérale, tout ça, là, ce qui est agriculture. Il y a des terres qui se vendent à des étrangers qui sont exploitées d'une manière qu'on n'est pas toujours certain. Vous vous assurez d'avoir une pérennité dans nos produits qui viennent d'ici, puis une bonne gestion de tout ça. Fiscalement, il pourrait y avoir des mesures qui pourraient être intéressantes pour peut-être justement les grandes chaînes en faisant la promotion de vos produits, en les mettant de l'avant, en baissant les prix. Il y aurait une façon d'aller fiscalement peut-être aider à ce qu'il y ait un courant positif face à vous. Mais on est en train de perdre des gens mentalement, physiquement, on est en train d'en perdre en termes de nombre sur nos terres. On perd des richesses exceptionnelles à travers les années et on ne vous met pas en priorité. Puis même pour nous, là, qui ne sommes pas dans l'agriculture et autres, on perd des ressources qui pourraient être développées au lieu d'amenuiser, parce qu'on pourrait avoir encore plus de nourriture, nourrir les bouches qui sont à boucher généreuses et autres, en développant nos pans dans lesquels on est excellent depuis des années. Je n'arrive pas à comprendre ce qui est gagnant pour le gouvernement de ne pas vous faire passer en priorité en ayant analysé tout ça, ce que je viens de dire.
Ben, en fait, on pourrait en discuter, on pourrait faire une heure là-dessus. C'est une question qui est très large, puis c'est une réponse qui est très large également. Qu'est-ce qui n'est pas avantageux pour le gouvernement de nous aider? Ben, premièrement, on est 0,6% de l'électorat. Fait que, j'ai aucune allégeance envers aucun parti, là, mais un gouvernement qui achète des votes à coup de chèque de 2 000 $, on n'est pas vraiment un public cible pour eux parce qu'on n'est pas assez d'électeurs, premièrement. Deuxièmement, les terres sont devenues l'objet de spéculations financières. Donc, les terres sont un outil financier comme un placement, comme des actions, puis comme des immeubles. Ça nous pénalise beaucoup parce que il y a beaucoup de régions au Québec où la valeur de la terre dépasse la valeur agronomique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu prends ta terre et que tu la mets sur 25 ou 30 ans, tu ne réussiras jamais à la rentabiliser en faisant de l'agriculture dessus.
Ouais, c'est intéressant, ça, là.
Ça prend un capital énorme pour mettre, avec un gros cash pour mettre sur la terre, pour pouvoir faire baisser cette dette-là, pour pouvoir en vivre. C'est pas quelque chose qu'on est nécessairement capable de faire en agriculture. Puis ça, plus le temps avance et plus il y a des régions au Québec où c'est le cas, et plus le territoire s'agrandit, donc plus l'agriculture perd un petit peu, là, recule un petit peu, ça devient un petit peu plus difficile. Dernière chose, le pourcentage d'appui agricole au Québec, c'est environ 5%. Donc, si tu fais un chiffre d'affaires, disons, de 1 million, tu devrais être capable environ de toucher 50 000 $ de subvention. Ça fait partie des pourcentages les plus bas au monde. Ce qui fait de nous une industrie qui est très autonome, qui n'a pas nécessairement beaucoup de financement du gouvernement qui est mis de l'avant dedans. Pour vous donner un petit comparatif, en Europe, c'est environ 17 %. Aux États-Unis, c'est 8 %. Puis dans les pays scandinaves, donc les pays qui cultivent comme nous à peu près 6 mois par année, on s'approche plus du 50 % de soutien agricole. Je ne dis pas qu'on devrait aller à 50 %, mais si, disons, on faisait seulement le doubler, puis aller à 10 %, je pense que la situation pourrait être grandement améliorée. Ça pourrait être sous forme de subvention pour les taux d'intérêt, mais aussi peut-être de subvention salariale. C'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres domaines, comme par exemple dans l'informatique, dans la pharmaceutique, les incitatifs pour que les gens, les compagnies viennent s'installer pour offrir des jobs de qualité. Ouais. On l'a déjà fait par le passé, on ne le fait pas nécessairement dans l'agriculture. C'est toutes des pistes de solutions que le gouvernement pourra avoir avantage à explorer pour améliorer la situation.
Tellement intéressant.
Monsieur le PDG de la ferme Simard, merci beaucoup. Vous direz bonjour, vous direz bonjour aux femmes de votre vie.
Oui, la première dame vous
salue. Salut, l'excellent David Simard de la ferme Simard. Ok, on jasait parce que il y a un sondage de l'UPA. L'UPA qui a sondé ses membres dans les dernières semaines. Puis on apprend qu'il y a une ferme sur cinq qui est incapable de payer ses dettes actuellement. C'est 20 % des fermes au Québec. Nos fermes, nos agriculteurs, c'est le garde-manger du Québec. Puis on n'est pas capable d'arriver. Il n'y a pas vraiment de bon sens, là. Puis c'est pas normal qu'un produit qui vient du Mexique arrive ici beaucoup moins cher versus l'agriculteur qui, lui, travaille extrêmement fort, qui respecte les normes, qui est obligé de bien payer ses employés, bien entendu. Puis là, tu disais, tu regardes les deux produits, tu dis, voyons, comment ça, il est 3-4 piastres plus cher? David l'a très bien expliqué. Là. Puis, tu sais, moi, je suis tout le temps le premier, là, je regarde les produits, puis à valeur égale, je prends toujours le produit du Québec. J'ai toujours un peu de misère à payer plus cher, mais je le comprends, ce qu'il dit.
Qui n'ont pas de pouvoir non plus là-dessus.
Exact, ils n'ont pas le pouvoir. Puis le gouvernement doit faire ses efforts pour aider nos agriculteurs.
Moi, le point, pour vrai, David, là, ce qu'il a dit en terminant l'entrevue, là, il a répondu avec beaucoup d'éloquence, puis beaucoup de points importants, si vous voulez reprendre la chronique. Là. Mais chose certaine, fiscalement, il y aurait quelque chose à faire. En demandant à ces grandes chaînes-là, du privé, là, de peut-être réduire les prix du Québec et autres, puis qu'il y ait un avantage fiscal à la fin de l'année. justement, s'il y avait une conscience. Dans le top 10, tu me dis demain, là, Yannick, là, Pascal, toi, 10 choses là, sur lesquelles sont, tu pourrais te battre là, dans la rue et aller manifester. Là. L'agriculture puis ce qui se passe en ce moment, ce serait assurément dans mon top 5. Dans tous les enjeux de société. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, puis c'est des pertes, là. C'est des ventes de terrain à des étrangers qui l'exploitent d'une autre manière que ce qu'on connaît. C'est en train de disparaître. Tout ce qui est culturel est en train de disparaître. Peut-être qu'une petite chose qu'on peut faire pour cet été, là, souvent, ces agriculteurs-là ont des paniers de légumes qui vendent avec des abonnements annuels. Ça te coûte à peu près la même affaire que, et moins cher que si tu en achetais à l'épicerie. C'est livré chez toi, auprès de chez toi. Peut-être donner un boom là, à toute la communauté de Boulevard 102.1, aller se prémunir d'un abonnement comme ça estival de fruits et légumes ben oui. pour les encourager. Ben oui. Vous allez en acheter de toute manière.
Exact. Midi 52, on fait une courte pause. On revient. 418-971-101, si vous avez des choses à nous dire, ça fonctionne par texto. Boulevard 102.1. Marceau.